Bonjour Raymond Bouchard au micro, nous nous retrouvons avec Michel Bourges-Menoury pour notre émission « Bienvenue en Europe ». Alors, l'Europe, eh bien, vous vous rappelez, ou nous rappelons que dans notre dernière émission, nous avions évoqué l'échéance des élections allemandes. Elles ont eu lieu et bien évidemment, il s'agit maintenant que l'on sait avec qui, encore que c'est un peu dans le flou, parce qu'on ne sait pas avec qui Mme Merkel va gouverner, mais on sait qu'il y a à revisiter l'Europe. Et le président de la République française, Emmanuel Macron, avait dit « Eh bien, je présenterai mes projets après cette échéance ». Donc, dans notre émission, nous allons regarder un peu les propos du président français sur l'Europe. Mais auparavant, on va voir les points noirs qui se sont présentés, et notamment les menaces de séparation. Alors, il y a les séparations en cours, c'est le Brexit. On va voir quelles sont les conséquences que ça peut avoir. La Catalogne, là, c'est quelque chose à observer. La Lombardie, qui voudrait suivre le schéma de la Catalogne. En gros, les régions riches qui souhaitent se détacher d'un pays dans lequel il y a des pauvres. Ma foi, c'est aussi une bonne solution. Il vaut mieux être, chacun sait, riche et bien portant que pauvre et malade. Peut-être que dans le domaine politique, il faut peut-être aussi tenir compte des autres. Alors, Brexit, allez.
Alors,
qu'en
du côté
dites-vous
du Brexit, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. C'est justement cela qui commence à préoccuper les Européens. Michel Barnier a fait toute une série de déclarations à la presse le 12 octobre dernier, où il fait part de ses préoccupations. Comme vous le savez, il y a deux phases dans les négociations. La deuxième phase, ce sera les relations d'une Grande-Bretagne séparée de l'Europe et de vérifier quels sont les régimes, notamment commerciaux, qui relieront la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Mais il y a une première phase, et dans cette première phase, les Européens tiennent à ce qu'elle soit d'abord résolue, et il s'agit notamment de protéger les droits de tous les citoyens concernés, qu'ils soient en Grande-Bretagne ou sur le continent en Union européenne, et également le processus de paix en Irlande du Nord, et également un grand problème qui est comment les engagements du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne en matière financière, ces engagements pour des projets qui touchent des milliers de projets qui ont été lancés avec l'accord de la Grande-Bretagne, comment est-ce que leur financement peut-il être assuré? Donc il y a une ardoise, en quelque sorte, du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne, et là il n'y a pas d'accord jusqu'à présent. Il n'y a pas d'accord également sur les droits des citoyens. Il y a eu un vote du Parlement britannique qui fait en sorte que le droit européen n'est plus,
ne
s'applique plus aux ressortissants du Royaume-Uni. Donc tout ceci est tout à fait préoccupant, et le seul dossier sur lequel il y a eu pas mal de travaux et qui laisse présager un accord, c'est la position de l'Irlande du Nord avec le reste de l'île d'Irlande. Comment est-ce qu'on peut maintenir les accords de paix qui avaient été signés à l'époque, autrefois, avec une absence de frontières entre ces deux entités. Donc on en est carrément au point mort. Et
il y a des déménagements
en cours
impasse. Aussi.
Alors tout ceci a des conséquences. Sur le plan d'ailleurs de l'économie britannique, sur le plan des institutions financières, la livre sterling a accusé un certain nombre de baisses ces derniers temps à la suite justement de ce manque d'avancée sur le plan des négociations. Et puis il y a de manière très concrète des institutions qui doivent déménager de Londres en particulier. Il s'agit de l'Agence européenne du médicament et de l'autorité bancaire européenne. Donc des villes se sont présentées pour être candidate, en particulier la ville de Paris, pour être candidate à la réception de ces institutions européennes qui sont actuellement encore sur le sol britannique. Donc sur ce dossier britannique, les choses sont quasiment au point mort. Alors le Conseil européen est le seul maître à bord, en quelque sorte. Il peut décider d'aller de l'avant ou pas, mais jusqu'à présent, il y a une unité des 27 par rapport au Royaume-Uni pour dire il y a une feuille de route, c'est Michel Barnier qui est responsable des négociations et il essaie d'aller de l'avant, mais si on constate que rien ne se passe, eh bien il va y avoir une échéance qui est les 2 ans légaux selon les traités. En 2019, le Royaume-Uni, s'il n'y a pas un accord, eh bien il sort entièrement de l'Union européenne et il se retrouve dans la position d'un État tiers.
État tiers. Bon, alors ça, c'est une chose. Il y a aussi quelque chose qui est un peu préoccupant, c'est la Catalogne et la Lombardie. La Lombardie, bon, pour l'instant, on perçoit que la Ligue du Nord et la Lombardie, c'est l'Italie du Nord. C'est une province riche de l'Italie, alors que le Mezzogiorno, le Sud, n'est pas très riche. Donc là, on voit quelques frémissements de régions qui disent « mais nous tout seuls, on peut vivre ».
Il y a aussi...
Quel regard vous posez là-dessus ?
L'Europe est vue par ces régions comme quelque chose qu'ils trouvent tout à fait de manière positive, et pour cause, parce que ces régions, normalement, reçoivent pas mal de fonds européens, en particulier à travers le Fonds européen de développement, le Fonds régional, etc. Donc il y a des montants extrêmement importants qui sont attribués à ces régions. Leur appartenance à l'Union ne fait pas problème apparemment aux populations, qui au contraire mettent en avant leur citoyenneté européenne, entre guillemets. Mais en revanche, vis-à-vis de l'État central dont ils dépendent, il y a un retour vers le local. Alors on l'a vu dans le passé avec l'Écosse, qui avait organisé un référendum sur l'indépendance, qui n'a pas été conclusif sur ce plan-là, mais qui avait été organisé en accord avec les institutions britanniques. Du côté de la Catalogne, là on se trouve dans un système tout à fait différent, puisque c'est un référendum dont on sait dans quelles conditions il s'est tenu, c'est-à-dire des conditions non seulement pas très légales, mais également... sur le plan pratique, qui n'indique pas que les résultats communiqués sont exactement le reflet de ce que la population véritablement pense. Donc il y a un double doute, et du côté du pouvoir central à Madrid, évidemment, on met en avant que tout ceci est parfaitement illégal. Et on se retrouve dans une situation qui actuellement est très préoccupante.
Très bloquée aussi.
Très bloquée. Donc on ne va pas refaire tout ce que les médias ont dit sur toutes les antennes sur le plan européen, notamment français. Bon, il y a une nouvelle échéance qui est posée avant le 20 octobre. Donc il y a une nouvelle échéance posé par le gouvernement central de Madrid pour dire, bien, vous devez dire exactement si vous voulez, si vous vous déclarez indépendant ou non, et évidemment avec les conséquences que l'on peut imaginer. Au-delà de toute cette problématique, il est quand même navrant qu'au niveau européen, alors que l'Europe répond précisément à un espoir pour les peuples, et d'avoir une souveraineté partagée, d'avoir le respect de toutes les entités qui en font partie, que l'on arrive à des déclarations telles que celles qui sont faites par le pouvoir catalan actuel, qui méconnaît les conséquences au niveau européen. Si une région se déclare indépendante et véritablement voulait aller de l'avant dans cette direction-là, elle se retrouve comme la Grande-Bretagne avec le Brexit. C'est-à-dire qu'il faut renégocier un accord. Elle se retrouve avec l'Union européenne, elle se retrouve de facto en dehors de l'Union européenne.
Ça, c'est juridiquement, mais en fait, c'est vrai aussi qu'on a vu, par exemple, en Europe de l'Est, des régions annexées ou des régions... quelquefois, on perçoit quand même qu'il y a là des difficultés et que peut-être, à force de méconnaître la réalité concrète, les hommes politiques européens et autres n'ont pas tenu compte suffisamment de bon, alors peut-être de pédagogie pour dire les choses, mais aussi du souhait des personnes. Je crois qu'on
oui,
a
vous
oublié,
avez tout à fait raison là-dessus, et c'est tout le monde a d'ailleurs souligné les grandes maladresses de Madrid dans cette affaire-là par rapport à Barcelone. Ceci étant, on a une Europe qui est constituée d'un certain nombre d'États. Le paradoxe en ce qui concerne l'Espagne, c'est que c'est quasiment un État fédéral, avec une autonomie considérable pour les régions qui font partie de l'État espagnol. Mais pour en revenir à l'Europe, il n'y a pas de miracle. Soit on est dedans, soit on est dehors. Et qui en fait partie, ce ne sont pas des régions en tant que telles qui sont membres de l'Europe. Il y a d'ailleurs un comité des régions à Bruxelles qui représente les régions, qui ont le droit de parole, qui prennent des positions. Et ceci marche normalement. Cela dépend évidemment des régions de se mettre en avant pour faire valoir leurs particularités. Ce comité des régions est d'ailleurs assez actif. Il y a la plupart des grandes régions européennes sont représentées par quasiment des sortes d'ambassades à Bruxelles. Donc tout ceci fonctionne et il y a donc cette réalité-là. Alors après, la réalité interétatique, c'est une autre dimension. Et donc l'Europe, en tant que telle, même si c'est sur un plan juridique, on n'y peut absolument rien. Donc c'est aux États de s'organiser correctement. Et lorsqu'il y a eu des nouveaux États qui ont rejoint l'Europe, je pense en particulier également aux relations qui ont été effectuées entre la Serbie, le Kosovo, lorsqu'il y a eu la Slovénie qui a rejoint l'Union européenne, la Croatie, bon, tout ceci a été effectivement négocié, mais ça a été négocié avant leur entrée ou les relations qui ont été effectuées par la suite. Donc l'Europe en tant que telle n'a pas son mot à dire juridiquement, même si moralement, elle peut effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, elle peut faire valoir son souci que les sensibilités locales puissent s'exprimer correctement, mais évidemment dans la légalité.
Alors, bon, ben pour la Lombardie, affaire à suivre, mais c'est vrai que la Ligue du Nord fait des siennes. Mais enfin, on espère que les Italiens qui ont toujours bien réagi, qui sont fondateurs de l'Europe, vont continuer dans cette voie. Eh bien, on va peut-être faire une petite pause avant de passer à autre chose.
Quand nous chanterons les temps de cerise et des rossignols et merle mon cœur seront tous en fête. Les belles seront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons les troncs de cerises, sifflera bien mieux les merles moqueurs. Und singen wir dann die Süßkirschenzeit, Frau Nachtigall weint, die Spottdrossel lacht, die Feier wird fröhlich sein. Die Schönen, sie werden so schön verdreht, den Liebenden steht der Sonnengott bei. So singen wir dann die Süßkirschenzeit begleitet.
Alors, c'était l'hymne de la Commune, ça, ou en tout cas une chanson de l'époque, et version française, version allemande. Cela nous amène peut-être, puisqu'on en est au symbole, eh bien, à parler du drapeau européen, parce que quelque chose de curieux, là, a été provoqué en France. Alors parlons, avant d'entrer dans le vif du sujet, du discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Alors, oui. Drapeau européen.
Oui, drapeau européen, parce que c'est un des symboles que l'on connaît bien de l'appartenance de notre pays à l'Union européenne. Il y a d'autres symboles, il y a l'hymne européen, il y a beaucoup d'autres symboles de ce type, mais le drapeau européen, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je me souviens personnellement d'avoir vécu son lever officiel devant le bâtiment du Berlaymont, en présence du président Jacques Delors, et c'était une solennité vraiment émouvante. Alors, si on touche à ce drapeau, qui est un symbole, eh bien, pour les Européens, et en tout cas, il ne s'agit pas de dire qu'on est pro-européen ou anti-européen, mais on ne peut pas nier l'existence de ce drapeau. Je ne vais pas ici rappeler quel était véritablement son historique, mais il se trouve que ces derniers temps, eh bien, il y a eu une déclaration de Jean-Luc Mélenchon contestant le drapeau européen qui figure dans l'hémicycle du Parlement de l'Assemblée nationale française. La France insoumise, son parti, a présenté un amendement pour rejeter la présence de ce drapeau dans l'hémicycle. Cet amendement a été rejeté le 12 octobre dernier, donc c'est tout à fait récent. Et le président français Emmanuel Macron en a profité pour rebondir et dire qu'il va saisir le prochain Conseil européen qui se tient les 19 et 20 octobre pour...
Une semaine donc, entre le 12 et le 19, là.
Pour déclarer solennellement que la France signe l'article 52 du traité de Lisbonne qui reconnaît les emblèmes l'Europe et en particulier le drapeau européen.
Il faut un peu d'humour dans les émissions.
Il faut de l'humour quand on voit ça.
Dans la vie politique, oui, c'est ça.
Mais ce drapeau qui est représenté par un cercle de 12 étoiles d'or sur fond bleu, donc ça fait partie de cette déclaration 52 du traité de Lisbonne qui, paradoxalement, n'avait pas été signée par la France. Il y a 16 pays qui l'ont signée, mais la France ne l'avait pas signé. Donc, cette signature fera en sorte que, au niveau légal français, juridiquement parlant, le drapeau sera reconnu. Il représente donc l'Europe. Il sera également, dans cette déclaration 52, l'hymne européen, l'ode à la joie, la 9e symphonie de Beethoven, en fait partie, comme la devise « l'union dans la diversité ». Et également l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne, et également le 9 mai qui est consacré comme journée de l'Europe. Donc tout ceci fait partie de cette déclaration qui était adjointe au traité de Lisbonne, et la France, par la voix de son président, va la signer, et donc l'affaire sera close. Rappelons également que même indépendamment de ces symboles, il faut aussi savoir que, par exemple, sur nos passeports, si vous avez un passeport, eh bien, il est inscrit l'Union européenne et la République française. Donc il y avait une certaine hypocrisie à ne pas reconnaître tout ceci. Et finalement, on pourrait dire
pratiquement
pourquoi ça n'a pas été ratifié. Et finalement, merci à M. Mélenchon d'avoir soulevé ce point, puisque maintenant, grâce à lui, on va pouvoir officialiser l'appartenance de la France à tous ces symboles qui font partie de l'Union européenne.
Alors, je ne sais pas quelle est votre impression, chers auditeurs, mais moi, je vois partout des drapeaux français et européens côte à côte, et j'ai l'impression que, pour beaucoup, c'est vraiment... On se demande, tiens, un oubli. Bon, alors parlons maintenant un peu de choses sérieuses. Tout ça, c'est très sérieux, n'est-ce pas? Le président Macron a profilé une proposition pour l'Europe. Et alors, avant de regarder un peu ce discours dans lequel il aborde un grand nombre de sujets, parlons justement des semaines sociales. Alors là, je vais faire de la publicité. Pour la session des semaines sociales en France, qui a pour titre « Quelle Europe voulons-nous ?». C'est le 18 et 19 novembre 2017 à la Porte de la Villette. Et ce sera le moment d'entendre un certain nombre d'Européens, mais aussi de débattre. Donc, relecture du projet européen, l'Europe au quotidien, l'enjeu spirituel que représente l'Europe. et puis aussi des aspects concernant la littérature, le cinéma, etc. Donc, tout un programme très passionnant, mais notre émission ne peut pas faire le détail de cette proposition.
Ceci étant, on peut quand même souligner qu'il y aura des intervenants de très haut niveau. On parlait tout à l'heure de Michel Barnier, il sera présent. Enrico Letta, l'ancien président l'ancien premier ministre italien qui préside l'Institut Jacques Delors, entre autres, font partie des intervenants. Il y aura bien entendu la ministre des Affaires européennes française. Donc tout ceci est à très haut niveau avec des débats passionnants. La dimension spirituelle, évidemment, en fait partie. Nous sommes une radio chrétienne, donc on peut également le souligner. Jérôme Vignon, qui est un ancien membre du cabinet de Jacques Delors, à l'époque où il présidait la Commission européenne, et qui est l'ancien président des Semaines sociales, interviendra justement pour souligner cette dimension spirituelle de l'Europe.
Bon, et puis quelques aspects pour l'avenir. L'Europe, quelle responsabilité dans la transition écologique ? Donc, l'Europe aussi, enjeu pour la démocratie. Donc, des débats tout à fait intéressants auxquels chacun est convié. Voilà, c'est à Paris, les 18 et 19 novembre 2017. Alors maintenant, je voudrais que dans la dernière partie de l'émission, ça ne nous fait pas beaucoup de temps, mais quand même, nous parlions de ce projet présenté par le président de la République pour l'Europe. Alors, sécurité et défense, il veut une Europe forte dans le monde. Alors.
Oui, le président Macron a voulu faire savoir aux partenaires de la France, et évidemment aux Français eux-mêmes directement, par ce discours, d'un discours solennel dans le cadre de l'université Sorbonne à Paris, de la Sorbonne, il a voulu souligner un certain nombre de points pour relancer l'Europe. Alors il l'avait annoncé dans son programme, il l'avait annoncé avant l'élection allemande, et maintenant il a concrétisé son approche. Il y a quelques 70 propositions pour relancer l'Europe, pour l'approfondir, pour l'élargir.
Mais alors, rassurez-vous, on ne va pas vous les énumérer toutes.
On ne va pas les énumérer toutes, mais c'est pour dire l'ampleur de cette proposition. Et il a voulu faire savoir sur le plan européen que la France était de retour, qu'il a repris les idées de Robert Schuman, précisément pour bien indiquer que la France, qui a été à l'origine du rapprochement franco-allemand et de la création de l'Union européenne, enfin à l'époque ça s'appelait charbon-acier, ensuite communauté économique européenne, donc tout ceci, eh bien, la France de nouveau était là pour faire des propositions, et ces propositions, ce sont sur base de projets, non pas de rentrer dans des détails qui aboutiront peut-être éventuellement à des révisions de traités, mais pour souligner d'abord quelle était la vision. Et la vision de la France, c'est une Europe qui doit s'assumer au plan international et faire poids égal avec des grandes entités comme les États-Unis ou la Chine, pour ne citer que cet exemple. Au niveau de la sécurité, pour aller de l'avant, vers évidemment davantage de sécurité, mais jusqu'à une armée européenne, par rapport aux grands dangers et périls du monde actuel, notamment en soulignant tout ce qui ne va pas du côté de l'Asie, la Corée du Nord en particulier, il y a des dangers de tous les côtés. Donc on est face à des périls comme jamais, et également des périls intérieurs avec la remontée comme dans les années 30, d'un certain repli sur soi, des nationalismes qui ont amené à la guerre. Donc, par rapport à cette grande dimension, que faire ? Eh bien, il faut relancer, il faut être pratique, il faut avoir cette vision à long terme, se donner un calendrier, donner la parole au peuple, et notamment par la création de conventions démocratiques qui se tiendront dès l'automne, et qui aboutiront à l'été prochain avec un groupe de refondation européenne à haut niveau qui prendra en compte les réactions des citoyens un peu à la manière dont la République en marche a été mise sur pied. Donc on fait appel aux citoyens de base pour qu'ils donnent leur opinion, mais parallèlement on trace une certaine vision, et cette vision passe notamment par une harmonisation fiscale et sociale, à commencer par des relations entre l'Allemagne et la France sur un pied d'égalité, mais pour que les régimes économiques, sociaux de ces deux pays puissent véritablement se rejoindre, et que les autres pays de l'Union européenne se joignent à cette dimension-là, notamment l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas,
la Belgique,
les pays d'Europe de l'Est. Donc la porte est ouverte à tout le monde, mais il faut d'abord faire des pas en avant, concrets, mais avec cette vision à long terme. Et c'est ça qu'il a voulu véritablement.
Alors il évoque maîtriser nos frontières, la transition écologique et agricole, une Europe numérique, et là aussi...
Il insiste beaucoup sur la dimension numérique.
Parce l'innovation de rupture, dit-il.
C'est l'avenir, et c'est l'Europe doit être un pilote, littéralement, au plan mondial. Donc il a des visions extrêmement ambitieuses à cet égard.
Une économie concurrente de la Chine et des États-Unis, je cite.
Tout à fait.
C'est comment nous arrivons à résoudre ce que depuis 10 ans nous échouons à faire, créer de l'emploi. Voilà.
Et également de lutter contre le dumping social à l'intérieur de l'Union européenne. Et là, on rejoint par exemple la révision de la directive sur les travailleurs détachés.
Alors voilà, Europe unie avec convergence sociale et fiscale, effectivement, ce que vous dites là. Salaire minimum adapté à la réalité économique de chaque pays. Et puis aussi,
alors, au niveau
des idées.
Des idées, mais au niveau pratique, il y a le budget de l'euro, il y a un parlement de l'euro, il y a un ministre des Finances pour l'euro, il y a véritablement des choses très très précises également. On a touché un mot sur la défense, sur les frontières européennes. Donc c'est véritablement il faudrait des heures pour analyser chaque point, mais au niveau des grandes lignes, c'est tout à fait remarquable qu'une telle déclaration ait été faite dans le contexte actuel. Et donc le président français a confirmé son intérêt pour défendre l'Europe, puisqu'il va bien au-delà. Mais également, il y a quelque chose qui est remarquable là aussi, c'est cet appel à la jeunesse, la référence à Erasmus, l'idée de créer une vingtaine d'universités européennes, le souci de faire en sorte que chaque jeune puisse parler au moins 2 langues, puisse
Là, en France,
vivre.
On a du travail
on
à faire.
On a beaucoup de retard à cet égard. Que les jeunes, qui soient étudiants ou apprentis, puissent au moins passer 6 mois dans un autre pays de l'Union européenne. Donc il y a tout un programme véritablement considérable qui est mis sur la table avec des dimensions très pratiques. Alors tout ceci devra être négocié, à commencer par...
Faire le ménage dans les normes, par exemple.
D'abord, les normes. Il y a... La Commission européenne a accueilli avec évidemment beaucoup de satisfaction ce long discours. Il y a un renouveau de l'Europe qui pourrait arriver concrètement si au moins déjà une bonne partie de ce qui est annoncé pourrait être effectué. Donc il y a un calendrier qui, dès les prochains mois, va se mettre en place. Des négociations vont se faire, à commencer avec l'Allemagne, pour voir concrètement quels sont les domaines que l'on va pouvoir mettre sur la table d'une manière
dans
conjointe.
Le cadre notamment d'un groupe de refondation européenne, donc une vision d'avenir dont nous reparlerons dans notre prochaine émission. D'ici là, nous vous disons, eh bien, au revoir. N'hésitez pas à aller voir sur Internet ces projets. Et bonne semaine à tous.